France Culture.
Bonjour Anishka Hollande.
Bonjour Anne.
Pour ce dernier épisode de nos entretiens à voix nue, je voudrais vous proposer de parler d'art et de politique. Vous allez me dire, mais on l'a fait pendant ces 5 épisodes, c'est vrai. Mais peut-être plus spécifiquement du cinéma en général et de l'Europe en particulier, à travers notamment les derniers films que vous avez réalisés en date, L'ombre de Staline en 2019, Le procès de l'herboriste en 2020 et Green Border en 2023, 3 films politiques qui portent sur l'histoire avec un grand H, qui portent sur l'actualité européenne, on peut dire le passé et le présent. L'ombre de Staline, par exemple, pour prendre le premier, revient sur l'Holodomor. L'Holodomor, c'est la famine en Ukraine organisée par Staline dans les années 30. Et à nouveau, personnage réel, vous faites un film à partir à travers 2 personnages qui ont vraiment existé, 2 journalistes que tout oppose. L'un montre la vérité, c'est Gareth Jones, et l'autre a choisi la corruption, Walter Duranty. Le problème, c'est que Walter Duranty était bien plus connu que Gareth Jones, parce que Walter Duranty était le correspondant du New York Times à Moscou à l'époque, et voulait filmer sous le regard de George Orwell, en train d'écrire La ferme des animaux, puisque cette histoire a inspiré La ferme des animaux. Qu'est-ce qui vous a donné envie, au moment où vous tournez L'ombre de Staline, de faire ce film ?
J'étais contactée par une jeune scénariste, c'était son premier scénario d'ailleurs. Elle est normalement journaliste américaine d'origine ukrainienne, vivant à New York. Très politisée, très lucide, très brillante, qui a trouvé beaucoup de documentation concernant d'un côté la famine en Ukraine, où d'ailleurs son grand-père était le témoin ou un des victimes d'une certaine façon. Et aussi exactement de journalisme d'époque et la relation entre les journalistes et les gouvernements occidentaux avec le régime de Staline. Toute la complexité qui a fait aussi que pour beaucoup de gens de gauche, à l'ouest, surtout avec la montée de fascisme en Allemagne, nazisme, l'Union soviétique, Staline, c'est un espoir. Et ils ne voyaient pas les autres espoirs où ils peuvent placer son investissement des supports intellectuels et l'autre. Et moi, à partir quand je fais Europa, même si je l'ai fait dans le moment d'un grand joie et de victoire de la liberté, parce que je l'ai tourné dans 1989, quand le mur de Berlin est tombé, Solidarność en Pologne a gagné, Gorbatchev a fait perestroïka, et l'Europe qui était divisée par le rideau de fer s'est réunie. Et certains politologues ont parlé même de la fin d'histoire, et on a pensé que la démocratie libérale maintenant, et les droits d'homme et l'état de droit vont gagner partout. Mais en même temps, quand je fais Europa, et quand je me suis plongée exactement dans les années 30 aussi, bon, dans toute l'histoire de Holocauste et de Deuxième Guerre mondiale, j'avais l'impression que la guerre n'a jamais fini, à vrai dire, hein, qu'elle s'est mise en sommeil et que ça peut se réveiller à chaque moment. Et quand ils m'ont demandé pourquoi ce double titre, Europa, j'ai dit, dans ce moment-là, on a placé tellement d'espoirs en Pologne et les autres pays de l'Est dans le projet européen, que l'Europe, d'une côté, c'est exactement ça, c'est la culture, c'est liberté, fraternité, égalité, c'est solidarité, c'est les droits des hommes, c'est l'état de droit, mais de l'autre côté, c'est aussi le berceau des crimes les pires contre l'humanité, avec le colonialisme, avec les guerres religieuses, avec l'Holocauste, avec le stalinisme. Et voilà, et cette dualité d'Europe, avec le temps, et surtout après le septembre 11...
Le 11 septembre 2001.
Oui, 2001, je pensais que cette vaccination que l'Holocauste a fait contre les populistes sanglants, contre le fascisme, contre le racisme et le nationalisme aveugle, que ce vaccin s'évaporise. Et on a vu aussi que ça s'évaporise à l'ouest, mais ça s'évaporisait complètement à l'est, et que la Russie de Poutine devient de nouveau une menace primordiale pour l'avenir, pour l'humanité. Et je savais aussi que, d'une certaine façon, en même temps, avec la révolution des médias sociaux et d'Internet, les populistes gagnent aussi à l'ouest et qu'on oublie que ce vaccin, exactement, cesse de marcher aussi au sein de l'Union européenne et aussi aux États-Unis. Quand je lis le scénario d'Andrea, parce que ma première réaction, c'était, elle a dit, c'est sur la famine en Ukraine. Je connaissais l'histoire, je lisais pas mal de choses dessus. Hein. Je connais aussi bien l'histoire des crimes de Staline. Je suis assurément beaucoup plus éduquée ici que la majorité des intellectuels français qui, quand même, ont flirté avec les communistes jusqu'au quand c'était possible. Mais je me suis dit, bon, j'ai fait 3 films sur l'Holocauste, j'ai pas envie de replonger dans ces cauchemars de nouveau. J'ai fait des comptes que j'ai passé presque 8 ans de ma vie dans l'Holocauste, c'est plus que la Deuxième Guerre mondiale a duré. Mais quand même, j'ai lu le scénario, et quand j'ai lu le scénario, j'ai vu que le point de vue, il y avait déjà la guerre en Ukraine à commencer, même si on n'a pas vraiment parlé de ça comme la guerre. C'était après 2014, quand Poutine a annexé Crimée et attaqué Donbass. Et je me suis dit, c'est très, très, très actuel. Et pas seulement du point de vue de ça que les Russes peuvent faire pour l'Europe de l'Est ou Ukraine, mais c'est très révélatrice sur les montées du fascisme en même temps. Dans l'Europe, en Amérique, et aussi que cette polarisation qui vient aussi des médias sociaux, selon moi, dans grande partie, cette polarisation est en train de tuer complètement l'objectivité et l'honnêteté des médias écrits, et pas seulement écrits, des médias traditionnels. Et que média devient complètement dépendant d'un courant politique ou l'autre courant politique. Et dans ce moment-là, les faits sont pas vraiment importants. C'est l'agenda qui est le plus important. C'est les raisons idéologiques ou les raisons politiques que dans le moment quand les médias sont corrompus, et je parle pas seulement de la corruption financière.
Absolument,
ça, c'est
pas, non, c'est une corruption politique, oui, idéologique.
Oui, qu'ils croient vraiment qu'il faut servir cette partie parce que
le correspondant du New York Times à Moscou se rallie au stalinisme.
Oui.
Contre la vérité, en l'occurrence, oui, de ce qui se passe
en Ukraine.
On peut
dire que bon, il a vécu dans le luxe là-bas, mais en même temps, c'est pas ça seulement. Et si c'était seulement Durante mais pratiquement tout le monde là-bas l'a fait. Il y avait très peu des exceptions de ceux qui ont dit non, mais la vérité.
C'est Gareth Jones, l'exception.
Mm-hmm. Il était jeune. Et il était un peu spécial, oui.
Bon.
Très brillant d'ailleurs, parce que c'est un jeune Valois qui a parlé bien plusieurs langues, allemande et russe entre les autres, qui avait vraiment un cerveau économique très brillant, et il a vu tout de suite qu'il y a le problème là. Comme il est allé en Russie, il savait déjà que quelque chose marche pas, que ça qu'on dise officiellement peut pas être vrai sur l'économie et sur ça. Qu'est-ce qui se passe exactement en Russie soviétique? Et aussi, il a jugé Hitler très, très rapidement aussi. Il était le premier qui a fait l'interview avec Hitler, premier journaliste après sa prise de pouvoir. En tout cas, oui, il a senti qu'est-ce qui se passe en Europe en ce moment-là. Et cette situation des années 30 n'est pas vraiment différente de notre situation d'aujourd'hui. Sauf que à l'époque, c'était le pacte Hitler-Staline. Aujourd'hui, c'est le pacte Trump-Poutine.
C'est ça que vous voulez dire. Mm-hmm. Alors, c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites sur ce qui vous a conduit à tourner l'ombre de Staline que on pourrait voir le procès de l'herboriste. Le titre original, c'est Charlatan,
Charlatan, c'est mieux comme le titre.
Charlatan.
Non, mais j'ai dit que c'est mieux que le
procès de la Boris. Ça dit bien ce que c'est, justement.
La distributeur française, de temps en temps, il change le titre dans la façon si insensée que je n'arrive pas. Avec l'ombre de Staline, je pense que ça marche bien, le film en France, beaucoup mieux qu'on a pensé.
Charlatan est intéressant parce qu'il raconte à nouveau une vraie histoire, l'histoire de l'herboriste Jan Mikolacek, qui a, en Tchécoslovaquie, soigné et sauvé, vous écrivez à la fin du film, des millions de personnes, dont le président tchèque Tapotoki, et qui fut accusé à la fin des années 50 par le pouvoir communiste d'être un charlatan. Et vous posez aussi beaucoup la question dans ce film, me semble-t-il, de, en fait, encore l'identité, mais qui sont les charlatans, au fond ? Qui accuse qui de charlatanisme ? D'où l'intérêt de ce titre, effectivement, charlatan, et qui est la question que, évidemment, vous arrivez de façon assez magistrale à mettre en scène, parce que c'est toute la complexité de la situation, mais on voit bien qu'on peut retourner l'accusation en permanence. Je ne voudrais pas qu'on s'arrête trop sur charlatan, même si peut-être avez-vous des choses à en dire que vous avez envie de dire. Parce que je ne veux pas vous priver non plus.
Non, j'aime beaucoup ce film. Je pense qu'il a vraiment cette complexité qui est difficile à décrire, parce que ce n'est pas un film politique, et c'est un film politique en même temps, historique, pas seulement historique, psychologique, et pas seulement idéologique. C'est aussi un film sur la religion, on peut dire. Si on n'a pas besoin de croire aux choses, de croire aux miracles. J'ai fait un autre film, le troisième miracle, c'était sur le miracle, exactement. Et, il y a ce côté un peu, je ne sais pas, métaphysique ou mystique, qui m'a de temps en temps, mais charlatan, on a documenté beaucoup de ces personnages, et c'est vrai qu'il y a vraiment, avec les résultats exceptionnels, statistiquement on peut le prouver, dans sa méthode de soigner les gens.
Oh, ça avait l'air assez unique, sa méthode, mais le film est passionnant à bien des égards. Mais vous disiez que on vit une époque qui nous rappelle le XXe siècle, que vous avez documenté, que vous avez en partie connu, Agnieszka Hollande, que vous avez filmé beaucoup. Sans doute voit-on cette résurgence du passé dans le dernier film en date qui est Green Border, que vous avez tourné ou réalisé en 2023 et qui filme la crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne en 2021, quand les deux pouvoirs de Loukachenko en Biélorussie et de Kaczynski en Pologne se servaient des migrants, essentiellement des migrants du Moyen-Orient et d'Afrique, comme de vraies balles de ping-pong. Et vous filmez de plusieurs points de vue. Vous filmez une famille syrienne, vous filmez un garde-frontière, vous filmez un groupe d'activistes qui vient les aider. Le film est en noir et blanc, ce qui brouille évidemment la frontière entre le passé et le présent. Et c'est à nouveau un film qui parle absolument de maintenant, avec la cruauté de l'appareil d'État, la capacité soit de résignation, soit de réaction des individus. Et c'est un film qui vous a valu, alors, d'abord un grand succès critique, public, un prix au Festival de Venise, mais aussi une campagne de haine inouïe en Pologne.
Oui.
Inouïe et inédite.
Ici, cette campagne était orchestrée et vraiment inouïe. Je n'ai jamais vu que, même dans les pays communistes, comme la Pologne, mais bien sûr, pendant le temps de Staline, c'était différent. Un gouvernement, des autorités, une partie, se sont lancés contre un individu, un artiste, dans la façon si orchestrée et brutale.
Par exemple, le ministre de la Justice a posté sur X, ancienne Twitter, « Pendant le Troisième Reich, les Allemands produisaient des films de propagande montrant les Polonais comme des bandits et des meurtriers. Aujourd'hui, ils ont Agnieszka Hollande pour le faire à leur place. » Il vous compare à des nazis, il a sali la mémoire de votre père. Est-ce que ça vous a atteint ?
Oui et non, ça veut dire, parce que c'était avant les élections générales en Pologne. À cause de ça, le niveau émotionnel de la société s'est très élevé. Les mots comme ça, qui ont venu aussi des présidents de pays, qui ont venu aussi des autres ministres ou ou le dirigeant de parti au pouvoir, on provoquait des vagues, surtout parmi les gens qui étaient attachés à cette idéologie et qui étaient bon, un peu instables. Ça veut dire que j'ai commencé à recevoir pas mal de menaces de mort et des choses comme ça. Et ça m'a touchée, bien sûr, parce que je me suis dit, on ne sait jamais quoi. Et comme ça, quand je suis retournée en Pologne, parce que j'étais au Festival de Toronto, à un moment quand ça commençait, avec Green Border, on a décidé de prendre, pendant mes déplacements en Pologne, de prendre des gardes de corps. Et j'étais accompagnée pendant quelques semaines, quand je faisais le tour dans les villes différentes pour montrer les films. Accompagné par des messieurs très professionnels.
Ça fait sourire, vous avez l'air d'avoir apprécié cette compagnie.
Oui, en plus, ils ont eu les deux maîtres. Vraiment, le mec
costaud
et moi, quand vous voyez, je ne suis pas très, très grande. C'était vraiment rigolo. D'ailleurs, on a beaucoup sympathisé avec ça parce qu'ils étaient les témoins de beaucoup de discussions et de débats après la projection. Qui était fascinant et qui était très satisfaisant parce que la réaction était très profonde des gens. C'était vraiment comme des sens de la thérapie collective.
Cathartique.
Et mes gardes de corps, ils ont pris ça veut dire, ils ont jugé si, cette rencontre est meilleure à celui-là, qu'ici je dis très bien et ici c'était, bon, c'était drôle. Mais en même temps, c'était drôle. Il faut dire que les autorités, et surtout le président qui a aussi pris la parole, comparaient les spectateurs de notre film au cochon.
Andrzej Duda, c'était Duda
oui,
à l'époque?
Mm-hmm, Duda. Oui, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, devant les séances au cinéma, les nazis ont projeté les propagandas. Et comme ça, la résistance a fait une action que seulement les cochons vont au cinéma. Tylko świnie siedzą w kinie. Et il a réparti à ça et il a dit que le public de Green Border, ce sont les cochons. Elle collabo comme les Allemands. Bon, vous voyez, ils aiment beaucoup d'utiliser l'histoire dans les façons quelconques.
Mais d'une certaine façon, votre travail a été instrumentalisé, puisque le film est sorti avant les élections législatives d'octobre 2023 en Pologne, et on a vu la victoire de l'opposition centriste pro-européenne de Donald Tusk. Peut-être que votre film a eu un effet, malgré tout.
Beaucoup de gens pensent que notre film a aidé, parce qu'il a créé une espèce d'élan des biens, de l'an de la solidarité, de l'an de... Il y avait... On avait 800 000 spectateurs, ça veut dire, on a parlé beaucoup de ça. Ça veut dire, c'était le nombre de gens qui étaient touchés par ces films et qui étaient... Oui, je pense que ça a aidé, malheureusement, la nouvelle gouvernement...
Deux ans plus tard, ça a échoué.
Oui,
au présidentiel de juin.
Oui,
2025.
Pas seulement ça, mais Donald Tusk a repris la même façon de traiter ce problème de la migration. Le problème de la migration, si vous voulez, parce que je ne veux pas parler de mes sentiments d'être maltraité par les politiciens, je m'en fous. Je m'en fous vraiment, ça veut dire, ça ne me touche pas, si vous vous demandez si ça me touche, ça ne me touche pas. J'essaie de garder la vision des choses sans être influencée ni par la peur, ni par contre, d'être prétentieux et de dire que seulement moi a la raison. Mais j'ai suivi des problèmes, le défi de la migration à partir de près, à partir de 2015, ça veut dire la guerre en Syrie, et quand la première grande vague de réfugiés a commencé à venir en Europe. J'ai compris tout de suite à quel point l'Europe n'est pas préparée à ça, ni mentalement, ni politiquement, ni socialement, ni dans aucun... Quand c'est facile par les politiciens autoritaires ou politiciens populistes d'utiliser ce danger ou cette menace ou cette étrangeté de la situation pour gagner, gagner politiquement. Pour, c'était d'abord Orban qui a fait, mais après les autres sont suivis. Et en même temps, les autres d'extérieur, comme Poutine par exemple, ou Erdogan dans certaines façons, ils ont vu tout de suite à quel point en manipulant les flots migratoires, ils peuvent déstabiliser la situation en Europe. Comment c'est facile et comment et on peut à vrai dire gagner la guerre si on s'en tirait un seul obus, on utilise les gens qui souffrent, qui fuient les situations impossibles, qui cherchent la sécurité, qui cherchent la vie normale aussi. C'est bon, les raisons sont différentes, mais il y a toujours pour quitter son pays, en plus de prendre un chemin qui est plein de dangers, il faut avoir de bonnes raisons. Disons, que c'est pas comme ça que c'est Loukachenko ou Poutine qui a inventé ces gens-là. Non, il a ouvert, ils ont facilité un chemin, ils ont encouragé un chemin qui était plus safe, moins dangereux,
plus sûr,
moins dangereux.
Pour
que la Méditerranée, par exemple, que les couloirs méditerranéens ou les couloirs balkans. Et voilà, mais je pensais que les démocrates, les libéraux, la gauche européenne, qu'ils vont chercher les moyens comment, sans oublier et renier les droits des hommes, gérer cette situation.
Et non, mais non, ils ne l'ont pas fait.
Non, ils n'ont pas fait, dans aucun pays pratiquement. Et bien sûr, la Pologne a utilisé plus que les autres, parce que c'était le gouvernement de Kaczynski, la parole raciste, de la haine, de la mépris contre les groupes de migrants qui ont une couleur de peau qui est différente, parce que les Ukrainiennes qui ont venu un an plus tard, même pas un an, 6 mois plus tard,
ont été accueillies
avec
ce qu'on voit dans votre film, hein, d'ailleurs, qu'on voit dans
ça qui n'a pas, qui maintenant est en train de changer de nouveau. Il faut pas croire que les Ukrainiennes sont complètement sûr que le nationalisme polonais ne va pas tomber sur leur tête.
Pour contrer ces sentiments, ce découragement, cette crise d'espoir, quel est le rôle que vous vous assignez, Agnieszka Holland, aujourd'hui? Quel est le rôle de l'artiste? Vous avez été notamment la présidente de l'Académie européenne du cinéma de 2020 à 2024, une académie qui a été fondée par Ingmar Bergman en 88, qui a été présidée par Wim Wenders de 96 à 2020. Elle a un rôle cinématographique, elle a un rôle politique au sens large du terme, en dehors de vos films à vous. Donc, que reste-t-il à l'art?
Ben écoutez, je ne sais pas si...
Vous disiez que oui, dans l'épisode précédent, que les images pouvaient changer les mentalités. Et on voit bien, alors dans un sens qui n'est pas forcément celui que vous espérez.
moi, je pense qu'il faut faire ce qu'on peut faire. Ça veut dire, même si vous voyez pas d'espoir, même si vos actions peuvent être dangereuses ou pas extrêmement effectives, mais pas du tout effectives, le seul devoir moral humain que j'ai, c'est de défendre des valeurs sur lesquelles ma vie est fondée, sur laquelle aussi
auxquelles vous croyez.
Oui, auxquelles je crois. En sachant que c'est pas nécessairement populaire. C'était toujours quand vous regardez des antifascistes en Allemagne, des nazis, les dissidents dans le régime communiste en Russie ou en Union soviétique ou
c'est
dans les
minorité.
Autres pays, c'était toujours une minorité. Les gens qui ont sauvé les Juifs en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui pouvaient payer avec sa vie et la vie de leur famille pour le simple fait qu'ils ont accueilli quelqu'un, c'était une petite minorité, mais ce sont eux les justes. Les activistes qui sauvent la vie des gens à la frontière biélorusse, ils sont aussi une minorité, ils sont plus en plus poursuivis par la justice et découragés par les autorités, mais ils le font. Autant que qu'il y a le juste, comme j'ai dit, il y a l'espoir que cette humanité peut être préservée, mais à vrai dire, je pense que la démocratie libérale est pas seulement en crise, je pense qu'elle est morte. comme le système politique. Je pense qu'il nous faut, dans la réalité d'aujourd'hui, pendant cette révolution des médias sociaux, Internet, AI,
de l'intelligence artificielle,
qu'il faut chercher le nouveau moyen, comment reconstruire la société de droit et comment redonner au droit l'autorité et comment de créer la nouvelle façon de communiquer. Mais je pense, à vrai dire, que c'est un peu comme la révolution de Gutenberg, ça veut dire la découverte des prints.
De l'imprimerie.
De l'imprimerie, qui a changé tout, qui a provoqué la réformation, mais après 200 ans de guerres religieuses les plus sanglantes. Que c'est un peu ça qu'il va se produire maintenant et qui est en train de se produire.
Alors, est-ce que le cinéma, est-ce que l'art auquel vous contribuez largement, Agnieszka Holland, peut réfléchir à de nouvelles narrations à nouveau, peut réfléchir à la façon dont il faut trouver des nouvelles façons de penser le monde?
Je pense qu'il le faut. Mais en même temps, il faut dire que le cinéma est très, très facile à corrompre. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour faire nos films. Et en Europe, par exemple, ces argents-là viennent surtout des fonds publics. Ça veut dire qu'ils sont politisés. Ou des fonds commerciaux, comme des plateformes, qui sont politisés aussi. Parce qu'avec la polarisation, si vous prenez les sujets controversés, comme par exemple Green Border, vous perdez tout de suite la moitié de votre public potentiel. Ça veut dire que c'est beaucoup mieux de faire des choses, bon, des drames psychologiques, les comédies, les polars, les trucs comme ça. C'est très, très difficile. Il faut être très déterminé pour pouvoir faire des films qui vraiment touchent la politique.
Peut-être qu'avec votre prochain film en cours, France, sur Kafka, vous toucherez un large public tel que vous le souhaitez.
Ben, j'espère bien. J'espère bien, tant plus que j'ai l'angle sur lequel on a fait ce film est surprenant peut-être.
À contre-courant des idées sur l'homme.
Oui.
Et sur l'écrivain.
Pas complètement, mais en tout cas en cherchant d'approcher son mystère dans des façons un peu différentes et raconter ça aussi dans la langue différente. Mais... oui, mais je ne vais pas être les combattants politiques. C'est pas ça mon but. Hein. Quand je parle de la politique, c'est l'homme qui compte toujours. C'est l'homme qui m'intéresse, pas les mécanismes politiques. Les mécanismes politiques sont intéressants pour les politologues, en même temps, sont assez faciles à comprendre. La nature humaine n'a pas changé depuis l'Antiquité tellement, ou depuis Shakespeare, c'est sûr qu'elle n'a pas changé. Mais où est l'homme aujourd'hui et quel choix il a, s'il a le choix, s'il est totalement déterminé, et quelle est la marge de la liberté d'individu, hein? Ce sont les sujets qui m'intéressent, peu importe si je parle des événements strictement politiques ou des événements qui n'ont apparemment rien à faire avec la politique, mais à vrai dire, tout est politique.
C'est pour ça que vous aimez, Agnieszka Holland, citer « Vie et destin » de Vassili Grossman, et en particulier cette phrase qui va conclure nos entretiens. « L'histoire des hommes n'est pas le combat du bien cherchant à vaincre le mal. L'histoire de l'homme, c'est le combat du mal cherchant à écraser la minuscule graine d'humanité. Mais si maintenant l'humain n'a pas été tué en l'homme, alors jamais le mal ne vaincra. »
Ouais, c'est ça, c'est très beau.
Merci, Agnieszka Holland.
Merci à vous
pour ces 5 entretiens. C'était À Voix Nue avec Agnieszka Holland. Réalisation Laurent Polleré. Prise de son Nicolas Mathias. Chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.